Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Grégory Miremont, qui est professeur de mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon, et sa spécialité, c'est la théorie des probabilités. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, tu as fait un exposé à la BNF, dans lequel tu décortiquais les échanges de courriers entre Pascal et Fermat, qui sont en général considérés comme la naissance de la théorie des probabilités. Alors j'aimerais bien qu'on jette un petit regard sur cet échange de lettres et qu'on essaie de voir en quoi il est d'actualité, et puis qu'on essaye de voir aussi si Pascal existe encore aujourd'hui d'un point de vue mathématique.
Très bien.
Alors, dis-nous quelque chose sur cet échange de lettres.
Alors, cet échange de lettres, il prend sa naissance en l'année 1654 et il provient à l'origine de questions qui ont été posées à Pascal par un de ses amis mondains qui s'appelle le chevalier de Méret et qui, comme certains de ses co-religionnaires, était un joueur invétéré. Et donc, le chevalier de Méret pose deux questions à Pascal qui ont trait au jeu d'argent, au jeu de dés, au jeu de cartes. Et Pascal va se passionner pour cette question, la résoudre. Et sur les conseils de son ami Carcavive, va donc entrer en correspondance avec Pierre de Fermat, le magistrat toulousain. Et donc, ils vont échanger leurs solutions parce que Fermat va trouver aussi rapidement la solution à ces problèmes. Et c'est comme ça que naît cette correspondance.
Juste un mot, la correspondance en question, c'est bien sûr une correspondance par courrier qui mettait un certain temps entre Pascal qui était à Paris à l'époque et Fermat qui était à Toulouse. Et donc les lettres mettent parfois 3 semaines à voyager entre Paris et Toulouse. Et cette correspondance est intéressante parce qu'ils visiblement ils se respectent mutuellement.
Oui, tout à fait. Alors, la plupart du temps, ils vont se répondre assez rapidement et ils vont s'excuser au début de leur lettre quand ils ne peuvent pas répondre tout de suite. Il y a un grand contraste, en fait, dans les styles de ces deux auteurs et on sent effectivement un très, très grand respect mutuel.
J'aime bien une phrase qui dit « Je suis content de voir que la vérité est la même à Toulouse et à Paris ». C'est une belle phrase, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une très belle phrase, oui.
Alors, parlez-nous du premier problème où il faut jeter des dés.
Le premier problème vient peut-être d'une considération, d'une constatation empirique du chevalier de Méret, qui constatait que quand on jetait un dé, eh bien, on avait avantage à parier qu'en jetant ce dé 4 fois, on allait observer au moins une fois un 6. Et c'est-à-dire que si je parie contre toi que je vais voir au moins une fois un 6 en un certain nombre de lancers, si je jette 4 fois, je vais gagner plus souvent que perdre. Et en tout cas, le problème que va poser Méret à Pascal, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si on jette 2 dés à la fois et qu'on essaye d'obtenir un double 6 ? C'est-à-dire, si je jette 2 dés, combien de fois dois-je lancer ces 2 dés de façon à pouvoir parier avec avantage que je vais obtenir au moins un double 6 ? Et Méret fait le petit raisonnement suivant. Comme quand je jette 2 dés, il est 6 fois moins probable d'obtenir un double 6 qu'un 6 en jetant un dé, eh bien, peut-être qu'il faut que je jette 6 fois plus le dé. C'est-à-dire qu'au lieu de le jeter 4 fois, je dois le jeter 24 fois et qu'au bout des 24 fois, je vais obtenir un double 6. Du moins que je vais avoir avantage à parier que je vais obtenir un double 6.
Avoir avantage 1, ça veut dire avoir plus de chances.
Avoir plus de chances de gagner que de perdre.
Alors, son calcul est faux, bien sûr.
Et oui, son calcul est faux. Et en fait, il va inaugurer là une série d'erreurs fameuses en probabilité qui a toujours cours aujourd'hui. Ce n'est pas parce que quelque chose est deux fois moins probable qu'il faut le jouer deux fois plus pour, qu'il faut multiplier les probabilités par deux. Ça ne marche pas parce que dans ce cas-là, si on jetait 100 fois le dé, on aurait peut-être 100 fois plus de chances de gagner. Mais ça ce n'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, 100 fois plus, ça fait plus grand que 1.
Alors, je voulais te raconter cet article qui est paru il y a une dizaine d'années dans Libération, qui illustre cette erreur. Il y a 450 réacteurs dans le monde qui ont tourné pendant 31 ans, ce fait 14 000 réacteurs an, et pendant cette période, il y a eu 4 accidents majeurs. Il en déduisent donc que la probabilité qu'il y ait un accident majeur dans une centrale donnée pendant une année est de 0,003. Et ensuite, il calcule qu'est-ce qui va se passer en Europe dans les 30 ans qui viennent. Eh bien, il y a 143 réacteurs en Europe. Il multiplie par 30, il multiplie par la probabilité et il trouve que la probabilité qu'il y ait un accident majeur nucléaire en Europe dans les 30 ans à venir est de 129%.
Et voilà, oui. Donc
et
ça,
voilà c'est... l'erreur. C'est la même erreur, non ?
Voilà, c'est exactement la même erreur, sauf que là, elle est encore plus visible parce qu'ils obtiennent une probabilité plus grande que 1, alors que le chevalier de Méret avait quand même obtenu quelque chose de plausible. Voilà. Et d'ailleurs, la réponse en fait, au problème de Méret, ce n'est pas 24 fois, mais 25 fois. Mais pour revenir à l'erreur même, en fait, c'est une confusion entre ce qu'on appelle les probabilités et l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance mathématique, qui est le produit de la probabilité par le gain associé à l'expérience donnée, ça, c'est quelque chose qui est bien linéaire. C'est-à-dire que dans le calcul qu'ils ont fait, ils ont plutôt calculé le nombre moyen d'accidents qu'on pouvait espérer. Là, évidemment, il ne s'agit pas vraiment d'espérance, qu'on pouvait craindre se produire en Europe.
Juste un mot sur le choix des mots en mathématiques. Probabilité... justement laisse penser à des choses plus probables que des choses rares. Mmh. Et espérance, c'est peut-être un mot mal choisi également.
Alors, je ne sais pas si c'est Pascal qui est à l'origine de ce mot, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il utilise, et il l'utilise vraiment dans un concept d'espérance. Il le voit vraiment comme ce qu'on peut espérer gagner, parce que, je ne l'ai pas dit, mais le deuxième problème du chevalier de Méret est un problème de répartition des mises dans un jeu d'argent. Et donc, Pascal va essayer de calculer précisément l'espérance de ce que
de son gain.
De son gain. Donc, il y a bien une notion d'espérance, oui.
Puisqu'on parle d'espérance, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que tu penses du pari de Pascal ?
Alors, le pari de Pascal, en fait, je pense qu'il est vraiment lié au deuxième problème de Méret, dont on va, je pense, parler un petit peu plus tard, qui est ce qu'on appelle le problème des parties, et qui est la façon dont deux joueurs doivent se répartir des mises avant la fin d'un jeu qui les oppose. Dans le pari de Pascal, en fait, Pascal va pousser ce raisonnement mathématique jusqu'au bout. En tout cas, il va en tirer un certain nombre de conséquences philosophiques et théologiques en disant que quand on parie pour l'existence de Dieu, on parie pour un gain qui est potentiellement infini. Et donc, il y a intérêt à parier, en tout cas qu'il est rationnel de parier pour l'existence de Dieu.
Parce que si on gagne, on a un gain infini, et si on perd, on a perdu quelque chose, mais fini, quoi.
Voilà, c'est ça. Évidemment, ce serait réducteur de penser que l'argument du pari est juste un argument mathématique. Il y a une partie mathématique. Pascal aimait bien ça de façon générale, c'est-à-dire tirer les conséquences philosophiques de conceptions mathématiques. Il le fait également avec les deux infinis. Il va le faire aussi en dehors de l'argument du pari pour ce qu'il appelle travailler pour l'incertain. Il va tirer tout un tas de conséquences morales de ses réflexions sur les jeux de hasard. Mais pour revenir à l'argument du pari, donc qui n'est pas un argument purement mathématique, il faut aussi penser qu'un jeu à espérance infinie, c'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de jeux à espérance infinie. L'espérance n'est pas quelque chose qui permet d'encapsuler toute la complexité du jeu qui se joue derrière.
Quelques mots sur le deuxième problème.
Alors le deuxième problème, qui est un problème qui était sans doute connu dès le 14e ou le 15e siècle par les marchands italiens, parce qu'il se pose dans le cadre des problèmes d'assurance, c'est ce qu'on appelle le problème des parties. Alors Imaginons deux joueurs, par exemple nous deux, nous jouons à un jeu qui se joue en trois manches gagnantes, dont chaque issue se décide par exemple sur un lancer de pile ou face, donc j'ai autant de chances de gagner que toi à chaque manche. Et imaginons que nous jouions un certain nombre de manches, par exemple qu'au bout de deux manches, j'ai gagné une manche et puis toi tu en as gagné deux.
Bien sûr, Grégory veut dire qu'on a joué trois manches.
Et nous décidons de nous interrompre à ce moment-là. Donc, on n'est pas allé au bout des trois manches gagnantes. Et la question, c'est comment doit-on se répartir les mises que nous avions initialement placées et qui étaient égales. Nous avions, dans l'exemple de Pascal, chacun mise 32 pistoles. Donc ça, c'est le problème des parties. Et à l'époque de Pascal, donc, d'une part, il y a fort à parier que Pascal, le chevalier de Méré, Fermat, ignoraient tout de ces considérations-là qui avaient eu lieu déjà en Italie. Donc, on parle notamment de Pacioli, de Cardano et de, peut-être même de Galilée, en fait. Mais de toute façon, à cette époque, aucune des solutions qui avaient été proposées, notamment par Pacioli, n'était satisfaisante. Pacioli, en fait, propose de répartir les mises en proportion du nombre de parties déjà gagnées. Et ça, on sait que ça ne peut pas marcher. Par exemple, si je n'ai gagné aucune partie, je ne vais pas récupérer zéro, d'accord ? Puisque j'ai une chance de gagner les trois prochaines parties et donc de remporter le jeu.
C'est de là, discuter, se sont échangés des lettres, peut-être une dizaine de lettres.
Alors, c'est difficile à dire parce que sur ces lettres, un certain nombre ont été perdus, notamment la solution de Fermat a disparu. Donc, on ne peut la reconstruire qu'à partir des lettres que Pascal écrit, où d'ailleurs, c'est intéressant, il développe assez à fond la solution de Fermat. On a presque l'impression parfois qu'il explique à Fermat sa propre solution. Bon, ce qui peut-être veut dire que la solution de Fermat était un petit peu elliptique et laconique, qui est une caractéristique un petit peu du personnage.
Nous sommes tous les deux mathématiciens. La bonne manière de comprendre un théorème, c'est de l'expliquer.
Tout à fait, oui.
Donc c'est peut-être ça qui a fonctionné. Tu me disais tout à l'heure que, pour simplifier, même en caricaturant, on peut dire que Pascal parlait d'espérance et Fermat de probabilité.
Voilà.
Comment tu peux justifier ça ? Quels sont les mots qu'ils employaient à l'époque ?
Alors, d'abord, ils n'utilisent jamais le mot probabilité parce que je pense que ce mot était teinté, on va dire, déjà, parce qu'il était utilisé notamment par les jésuites. Il y avait la notion d'opinion probable. Une opinion probable, c'était quand un jésuite pouvait estimer que dans certaines circonstances, un problème moral qui lui était présenté, disons, était acceptable et dans d'autres circonstances, considérait qu'il ne l'était pas. Voilà, donc le mot probabilité, je pense qu'il était teinté à ce moment-là. Et donc, ils vont éviter de l'utiliser l'un comme l'autre. Fermat parle de chance, parle de nombre de façons de tomber. Finalement, la chance, c'est la façon de tomber, ce qui correspond bien à un jeu de dés.
Et pour revenir aux mots, on parlait du choix des mots tout à l'heure. Tu sais bien qu'en anglais, le mot hasard signifie plutôt le malheur et chance, le bonheur.
Oui, sachant que dans les deux cas, on parle de dés qui tombent, puisque le hasard, je crois que ça signifie les dés en arabe. Et bon, la chance, c'est la façon de tomber. Et l'aléa, c'est aussi les dés. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment dans les jeux de hasard. Je crois que Fermat utilise aussi le mot hasard. Hein. Il parle de chance ou de hasard. Le nombre de hasards d'une situation donnée, d'une expérience.
Alors, Fermat a de très jolis mots, il parle de la géométrie du hasard, c'est
ça ? Alors, c'est Pascal qui parle de géométrie du hasard, qui est vraiment une invention stylistique, on va dire, géniale.
C'est magnifique.
Oui, c'est magnifique. Donc, en fait, il développe cette idée dans une adresse qu'il envoie à l'Académie parisienne du Père Mersenne en 1654, sans doute au même moment qu'il correspond avec Fermat. Et dans cette adresse, il explique un certain nombre de choses merveilleuses qu'il va faire en théorie des nombres, en géométrie, mais il consacre tout un paragraphe grâce à cette nouvelle science qui va maîtriser l'incertain par la géométrie.
Il aimait bien se vanter. Hein.
Il aimait bien se vanter, mais il avait un sens de la formule extraordinaire.
Peut-être pour terminer, on pourrait conclure de la manière suivante. Donc, quelques mois après cet échange de lettres, en 1654, il a cette fameuse seconde conversion où il décide de consacrer sa vie non plus aux sciences, mais de se consacrer beaucoup plus à la théologie et à Dieu, pour simplifier. Par la suite, en 1660, sauf erreur, donc 2 ans avant sa mort, il a un dernier échange de lettres que je trouve très intéressant. Peut-être qu'on peut en dire quelques mots. Alors avant, je vais peut-être commencer par lire la proposition qu'avait fait Fermat à Pascal. Hein, Fermat a écrit à Pascal, visiblement ils sont copains, enfin ils s'entendent bien ou quelque chose comme ça. Alors je lis un extrait de la lettre de Fermat à Pascal, il dit « Je prétends vous embrasser et converser quelques jours avec vous parce que ma santé n'est guère plus forte que la vôtre. J'ose espérer qu'en cette considération, vous me ferez la grâce de la moitié du chemin et que vous m'obligerez de me marquer un lieu entre Clermont, là où se trouvait Pascal, et Toulouse, où je ne manquerai pas de me rendre vers la fin septembre ou début d'octobre. Et si vous ne prenez pas ce parti, vous courez le risque de me voir chez vous et d'y avoir 2 malades en même temps. J'attends de vos nouvelles et avec impatience, etc. » Donc Fermat invite Pascal amicalement. Et la réponse de Pascal est, je ne sais pas s'il faut dire un peu triste ou un peu... Lis-nous quelques petits morceaux de cette réponse.
Oui, elle est triste parce que la rencontre n'aura jamais lieu et donc la correspondance sera restée entièrement épistolaire. Ce qu'il faut dire aussi, juste avant ça, c'est qu'après 1654, ils ont continué à correspondre et à échanger des idées sur le hasard, dont certaines finiront sans doute dans un traité de Huygens qui paraîtra en 1657.
Mais, en tout cas, on a des traces de ça ?
On a des traces indirectes, on a notamment une lettre de Carcavi à Huygens où il parle d'un échange entre Pascal et Fermat sur des généralisations, des complexifications du problème des parties et notamment un problème célèbre en probabilité qui s'appelle la ruine du joueur. Voilà. Les années ont passé, au moins 3 ou 4 ans, et puis Pascal lui répond « Je vous dirai donc, monsieur, que si j'étais en santé, je serais allé à Toulouse et je n'aurais pas souffert qu'un homme comme vous eût fait un pas pour un homme comme moi. Je vous dirai aussi que, quoique vous soyez celui de toute l'Europe que je tiens pour le plus grand géomètre, ce ne serait pas cette qualité-là qui m'aurait attiré, mais que je me figure tant d'esprit et d'honnêteté en votre conversation que c'est pour cela que je vous rechercherai. Car, pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus haut exercice de l'esprit, mais en même temps, je la connais pour si inutile que je fais peu de différence entre un homme qui n'est que géomètre et un habile artisan. Aussi, je l'appelle le plus beau métier du monde, mais enfin, ce n'est qu'un métier. Et j'ai dit souvent qu'elle est bonne pour faire l'essai, mais non pas l'emploi de notre force, de sorte que je ne ferai pas 2 pas pour la géométrie, et je m'assure que vous êtes fort de mon humeur. »
Donc toi, tu interprètes ça un peu comme étant une petite pique contre Fermat ?
Je ne sais pas, je la trouve triste, cette lettre, parce que l'un et l'autre sont malades, en fait. Hein. Oui. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas se rencontrer.
Rappelons que Pascal va mourir en 1662, donc 2 ans plus tard.
Voilà, et Fermat 5 ans plus tard. Ils sont affaiblis l'un et l'autre. Et non seulement Pascal décline l'invitation, mais aussi, il est tourné vers d'autres considérations plus importante que la géométrie. On ne peut pas complètement lui donner raison, mais...
Lapsus intéressant. Grégory voulait dire qu'il ne voulait pas lui donner complètement tort, mais le fait qu'il se trompe signifie qu'il hésite. Pascal avait-il tort ou raison ?
D'un autre côté... Il s'adresse à Fermat, qui pratiquait les mathématiques en amateur et en homme érudit. Et il n'y a pas non plus voué sa vie, Fermat.
Oui, donc je vois quand même une tristesse dans la voix de Grégory qui trouve que quand même faire des maths, c'est encore mieux. Parce que quand même, il dit explicitement que les maths, c'est bien, mais la théologie, la religion est plus importante. Il faut s'approcher de Dieu.
Oui, c'est ça, effectivement.
Ouais. On peut être d'accord ou pas d'accord.
Oui, absolument, oui.
Bon, écoute, Grégory, je vais te remercier. Juste un petit mot pour conclure. Tu as fait une conférence à la BNF, qu'on trouve en ligne sur YouTube, je pense,
oui.
Qui demande un tout petit peu plus de maths que ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais pas beaucoup plus.
Oui.
Et je recommande d'écouter cette conférence qui est absolument superbe.
Merci.
Merci, Grégory. Quelle musique du XVIIe siècle pourrait bien illustrer les probabilités ? Grégory m'a suggéré les préludes non mesurés, qui ont cette particularité d'une part de n'avoir pas de barre de mesure, d'où leur nom, et d'autre part que toutes les notes sont indiquées comme des rondes, c'est-à-dire sans valeur rythmique différenciée. L'interprète a donc une totale liberté dans le choix du rythme. De là à penser que cette musique est aléatoire, c'est peut-être aller un peu loin. C'est une musique typique du XVIIe siècle qui est passée des luthistes aux clavecinistes. J'ai choisi un prélude non mesuré de Louis Couperin, interprété par Robert Hill.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.